Cette semaine, on est allé explorer des corps et on en parle tout de suite.
Va te mettre au coin, 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 petit canard.
Encore une victoire de canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare.
Regarde mes trois petits canards, comme ils sautent, sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin.
Salut Gabriel.
Salut Vicky. Où est-ce qu'on était cette semaine?
Alors cette semaine, on était à la Monnaie de Paris pour aller voir l'expo Kiki Smith.
Qu'est-ce que c'est que la Monnaie de Paris?
La Monnaie de Paris, c'est une institution française, une des plus vieilles institutions françaises, puisqu'elle date de 864.
Waouh! Tu fermes cette page Wikipédia.
Elle a été instituée sous le règne de Charles II, et son objectif principal, eh ben, c'est de frapper notre monnaie, encore aujourd'hui. Le bâtiment dans lequel elle se trouve est, date de 1774.
Et donc, ça se trouve quai de Conti, qui est grosso modo en face du Louvre, enfin derrière, de l'autre côté de la Seine.
À côté de ce magnifique bâtiment qu'est l'Institut de France.
Ouais, pas loin des Beaux-Arts.
Voilà.
Donc vous piochez ce qui vous parle le plus et c'est là.
Et vous trouverez.
Et la Monnaie de Paris, depuis sa réouverture en 2017, organise beaucoup d'expositions, enfin beaucoup d'expositions, non, mais des expositions sur l'art contemporain. Et pour les quelques que j'ai vues, qu'on a vues ensemble d'ailleurs, c'est souvent chouette. C'est souvent des expositions où même si vous ne connaissez pas l'artiste, ce qui arrive quand même souvent avec l'art contemporain, si vous n'êtes pas amateur, pas particulièrement amateur, ça a l'air cool et plutôt... Oui. À Guichon. On avait fait d'ailleurs l'exposition Woman House sur tout un groupe d'artistes féministes des années 70. Il y a eu entre autres l'exposition sur Paul McCarthy aussi, qui était l'artiste, pour ceux qui étaient déjà à Paris, qui avait installé le sapin sur la place Vendôme, qui a été vandalisé par le Printemps Républicain parce que ça ressemblait à un plug anal. Voilà, donc grosso modo, des expos plutôt intéressantes.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Kiki Smith?
Oui, alors Kiki Smith, que je ne connaissais pas plus que ça, qui est une artiste américaine, on est en Allemagne, mais de parents américains, née dans les années 50, donc elle commence à travailler vraiment dans les années 70, et elle aussi, c'est un petit peu comme les artistes de l'expo Woman House que je viens d'évoquer, elle est dans cette mouvance de l'art féministe des années 70, avec des grandes thématiques qui se retrouvent chez pas mal de ces artistes, des grandes thématiques qui sont expliquées dès le début de l'exposition. Donc c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt bien, c'est que dès le texte d'introduction et la chronologie. On vous dit tout de suite quelles sont un peu les grandes idées de son travail et vous n'êtes pas perdu pour le reste de l'exposition. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais oui, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Alors on va revenir sur ces thématiques juste après, j'aimerais juste vous faire un petit point sur ce fameux art féministe des années 70, qui s'inscrit dans la le démarrage aux États-Unis dans les années 60 des gender studies, donc des études de genre qui ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, même chez nous.
Avec 40 ans de retard.
Avec 40 ans de retard par rapport aux Américains. Et en fait, qui ne sont pas du tout à la base américaines, parce que les gender studies naissent aux États-Unis de l'étude par des sociologues américains, d'auteurs bien de chez nous, comme Foucault, Lacan, Lévi-Strauss ou Bourdieu en tête. Et ça va ensuite donner les études de genre, les colonial studies aussi, l'étude du colonialisme et ce genre de choses. Enfin voilà, qui a donné après plein de concourants qui aujourd'hui sont un peu pointés du doigt comme étant purement américains et qu'on viendrait forcer en France, alors qu'à la base ça vient de nos sociologues à nous. Toujours est-il que, comme d'habitude pour les grands sujets de société, les artistes s'en emparent. Et ça va donner dans les années 70 un grand mouvement d'artistes femmes qui vont faire de l'art féminin et féministe, avec des grandes idées qu'on va retrouver un petit peu, pas chez toutes, mais qui vont se retrouver à droite à gauche, et qu'on retrouve ici, dans l'art de Kiki Smith. Alors notamment de l'étude des personnages culturels féminins, enfin des figures féminines telles qu'on les trouve dans la culture populaire, ancienne, enfin la mythologie, la Bible... les contes, le cinéma plus récemment, donc un peu voilà, comment est-ce que la figure féminine a traversé l'histoire et ses représentations. Une certaine part d'autobiographie aussi, un peu de raconter l'intime, de raconter des choses qu'on ne raconte pas ailleurs, qu'on ne raconte pas dans la haute culture, tout ce que c'est que, je sais pas, enfin, peut-être moins chez Kiki Smith, mais chez d'autres artistes, ce que c'est que d'accoucher, d'avoir ses règles, d'être mère, que des choses qui paraissent un peu futiles et dont on ne parle pas trop, et donc tous ces artistes-là vont en parler. Un certain lien avec la nature aussi, cette génération des années 70, bon, pas toutes, mais plusieurs artistes, aussi comme Myriam Shapiro, par exemple, qui ont un peu cette notion qu'être une femme, c'est être reliée à la nature, à une espèce d'espace cosmique, et ça, on va beaucoup le retrouver chez Kiki Smith dans cette exposition. Voilà, donc c'est un peu ça, les grandes idées de son art. Et l'autre grand principe aussi de son œuvre, c'est qu'elle va travailler avec plein de matériaux différents. Alors j'ai noté plein de choses, à la fois de la porcelaine...
Les papiers japonais.
Les papiers japonais, du papier mâché, que ce soit en sculpture ou bien du papier avec en dessin sur papier, gravure aussi.
Métal,
de la photo, des sculptures en cire.
Tapisserie,
sculpture en bronze aussi, du bois, du verre. Donc vraiment pas mal de choses. Ce qui fait que c'est pas trop lassant dans ses œuvres, même si on retrouve un petit peu toujours les mêmes thèmes. Et donc tu me demandais aussi de faire une petite bio, rapidou. Oui, en fait son vrai nom c'est Kiara Larrière Smith, donc Kiara, petit surnom Kiki. Et enfin voilà, après, fin de la bio. Merci, au revoir.
Elle est née en 1954, ah, oui. Et elle est encore...
Elle est encore vivante.
Et première expo perso, 1988.
Oui, et première grande rétrospective sur elle en France.
Avec cette expo-là.
Oui, tout à fait.
La Monnaie de Paris s'en est d'ailleurs bien vantée.
Oui, ils nous le disent trois fois dans la première salle. Mais bon, c'est vrai que c'est important. Alors, premières impressions.
Moi, je pars direct sur la muséographie, parce que je trouve que pour ce qui est art contemporain, c'est important de partir là-dessus. Donc, tout bête, hein, mais déjà pour accéder à l'expo, c'était pas simple, c'est pas hyper bien indiqué. Entrée, voilà. Une petite chrono pour commencer, qui j'ai trouvé était pas inintéressante, c'était pas trop long. Du coup, on a le temps de tout lire et puis ça donne des pistes pour la suite. Notamment, j'ai bien aimé, il y a une partie où ils disent qu'elle a suivi des cours de médecine d'urgence.
Ah oui.
Et du coup, après dans l'expo, on retrouve à plusieurs moments des organes. Donc je pense qu'il y a quelque chose derrière
tout
ça.
Tout à fait. Toujours dans cette exploration du corps, de l'organique, voilà, absolument. Ça. Ouais, ça revient très souvent.
Après, il n'y a qu'un seul panneau explicatif, finalement. Il y a le panneau d'entrée qui explique l'art de Kiki Smith tout au long de sa vie. Bah, il faut bien le lire, parce que du coup, je trouve que ça donne les bonnes pistes pour regarder toutes les œuvres. Par contre, encore une fois, et c'est un peu une tendance, je trouve, dans les panneaux explicatifs, c'est qu'on nous fait une liste de mots. Non mais c'est vrai. Elle est viscérale, végétale, microscopique, cosmologique. Il y a 50 mots, il y a une liste de mots, donc voilà, on est très content de savoir qu'ils savent plus de 10 mots. Mais enfin, je trouve que ça a pas de structure en fait. Enfin, on nous balance des mots comme ça, bon, voilà.
C'est vrai que c'est, en plus c'est peut-être pas la meilleure idée, surtout si t'attends que les gens aient bien lu ton truc. Ils soient bien au clair sur ce que tu vas leur montrer après.
C'est ça, tu fais pas une liste de 50 mots, quoi.
Ouais, on va pas lire la moitié. C'est pas faux, c'est vrai.
Après, niveau éclairage, c'était très bien. De toute façon, je trouve qu'il y a une certaine facilité à éclairer des sculptures plus facilement que les autres œuvres. Et puis c'est assez aéré, quoi. Enfin, je veux dire, en général, il y a deux œuvres par salle, donc il y a la place de voir. Par contre, les cartels sont minuscules.
Ouais.
C'est illisible, franchement, et puis ils sont tout le temps pas à la bonne hauteur, donc oui. T'es obligé. Heureusement, il n'y avait pas grand monde, donc on n'était pas gênés, mais si on avait été 10 dans la pièce, bah faut attendre 10 minutes pour pouvoir lire le cartel, parce que c'est écrit tout petit, puis il faut te baisser, parce que c'est écrit tout en bas. Après, ce que j'aime bien aussi dans l'intro, c'est qu'il précise que c'est l'artiste qui a fait la...
Le parcours.
Et ça, c'est intéressant, du coup, de savoir, elle, ce qu'elle... finalement, c'est pas vraiment le mot du conservateur qui est derrière, c'est vraiment l'artiste, ce qu'elle a voulu dire. Et moi, au début, j'ai essayé de faire des catégories, clairement, en fait, faut se laisser porter.
Je vais rebondir sur ce que tu dis. L'expo est faite un peu comme une sorte de promenade, et c'est assez plaisant. Ça a des inconvénients, notamment avec les cartels. Qui dit promenade dit que le cartel sera pas à chaque fois collé à côté de l'œuvre parce qu'on s'attend à ce que vous profitiez un peu d'abord de l'œuvre, que vous tourniez autour. Par contre, à l'inverse, il est caché. Parfois, il faut aller le chercher dans la salle, on sait pas trop où il est. Et comme tu dis, il est souvent mal placé. Ça va parce que là on était quasiment seul dans l'expo, mais pour peu que tu doives attendre qu'il y ait tout le monde qui te passe devant toi en lisant le cartel, c'est un peu pénible. Dommage surtout que les cartels sont des cartels enrichis d'un texte assez long, et comme on n'a plus de grands textes explicatifs, c'est ça qui va venir un peu éclairer chaque œuvre. Donc c'est bien de les avoir en plus, ces cartels. Mais cet effet de promenade, c'est assez sympa, surtout que la Monnaie de Paris, c'est vraiment un très bel espace. C'est encore, c'est des suites, des enfilades de pièces 18e, avec des cheminées, des boiseries, mais pas plein d'or et de couleurs. C'est vraiment assez sobre, mais vraiment très beau, où il y a des miroirs.
Non, ça a été bien,
qui,
en fait.
Ouais, des miroirs qui vous accueillent dans chaque pièce, au-dessus des cheminées, c'est vraiment joli. On a un petit peu cette impression d'être chez quelqu'un, bon alors chez quelqu'un qui aurait un magnifique appartement 18e en plein Paris,
mais,
certes,
mais comme nous, enfin je veux dire.
Oui, voilà, comme l'endroit où nous enregistrons en cet instant. D'où la résonance. et le craquement des parquets. C'est assez intimiste et c'est assez chouette. Et donc ça donne à la fois l'envie d'aller un petit peu se balader dans cet espace et de se balader autour des œuvres de Kiki Smith qui sont souvent présentées sans mise à distance. Alors mise à distance, qu'est-ce que vous appelez mise à distance ? C'est parfois quand autour d'une œuvre vous avez une petite cordelette pour pas vous approcher trop près, ou vous avez un socle sous votre sculpture, pareil pour pas la toucher, pour pas vous approcher trop près. Là, elles sont souvent posées au sol directement. Alors les mises à distance, elles sont implicites. Vous vous doutez bien qu'il faut pas que vous vous approchiez.
Il y a des petits mots au sol.
Il y a des petits mots au sol et il y a des gardiens. Mais vous avez vraiment l'impression de cette proximité avec l'œuvre. Et puis particulièrement dans la première salle où c'est des grandes œuvres en bronze posées par terre qui étaient prévues à la base pour un jardin où les enfants pourraient jouer par-dessus. Donc on comprend en plus que c'est pas des œuvres particulièrement fragiles. Ça dépend quoi.
Oui,
mais ces sculptures en bronze, ouais. Bon, on se dit...
Mais en fait, dès le début, ça nous met dans l'ambiance de « il faut se balader entre les œuvres ».
C'est ça. Et elles vont vous attendre, vous surprendre au détour d'une salle. Déjà, rien qu'on arrive, déjà avant le début de l'exposition, on est accueilli par des œuvres.
Oui.
Dans la cour, dans l'escalier, et tout de suite en arrivant, il y a une petite sculpture d'une petite fille qui est assise. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que certaines de ces sculptures sont à échelle, presque échelle naturelle, vaguement plus petite, donc ça donne ce côté un peu malaisant peut-être pour certains. En tout cas, ça interroge, on se demande ce que c'est, on a envie d'y aller. Et ça, c'est plus agréable qu'on puisse y aller, qu'on puisse aller voir ces sculptures de près, qu'on puisse vraiment se balader dedans. En plus de ça, j'ai trouvé que toute l'exposition avait un petit côté cabinet de curiosité. De par les thèmes de Kiki Smith, enfin le corps humain, les organes, la nature,
oui, puis c'est la vitrine, la vie. Qu'ils ont ajouté.
Voilà, et en plus ils ont mis certains objets dans des vitrines, d'autres pas. C'est chouette, ça fait une ambiance assez calme. Au début vous avez même des petits bancs, vous pouvez vous asseoir tranquillement autour des œuvres avec les catalogues si vous avez envie de les feuilleter. Voilà.
Parlons un peu des œuvres, parce que là, donc on vous parle muséographie. Donc, clairement, niveau muséographie, on valide. Mais maintenant, les œuvres elles-mêmes.
J'ai pas tout aimé, mais bon. Il y a des choses qui sont un peu kitschouilles et où je trouve que...
Bah, oui, c'est un peu daté, oui. Il y a des œuvres qui sont un peu
loin.
Datées.
Oui.
Et moi, je l'ai senti notamment parce que donc il y a une première partie à l'étage et après, on descend. Deuxième partie. Et la deuxième partie, les œuvres sont plus récentes en général. Et j'ai plus accroché avec cette deuxième partie.
D'ailleurs, cette deuxième partie, enfin les œuvres plus récentes, il y en a même certaines qu'elle a fait pour l'exposition
pour
même, qui date de 2019. Ça, c'est chouette aussi de se dire qu'elle a vraiment investi l'espace, non seulement en exposant ses œuvres, mais aussi en créant elle-même. Voilà, il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres que j'ai vraiment... qui m'ont pas parlé du tout, ou j'ai trouvé ça assez laid. Mais bon, ça, c'est des...
Ouais, mais finalement, en fait, c'est pas gênant.
Non.
Parce qu'on est toujours dans ce thème de la balade, donc voilà, celle-là, on passe à côté, celle des fluides notamment, c'était assez...
Oui, c'était pas particulièrement parlant. Bah, surtout que ça m'a fait penser à d'autres artistes qui ont un peu les mêmes thèmes et qui, je trouve, pour certaines, font les choses un peu mieux. Bon, je pense notamment à Louise Bourgeois ou à Annette Messager, où c'est des choses que j'aime mieux, mais bon, après, j'ai pas la science infuse non plus...
Bon, par contre, moi, j'ai une petite frustration, c'est à un moment, donc, elle a fait une série de tapisseries, et on sait qu'elle est allée à Angers et qu'elle a découvert la fameuse tenture de l'Apocalypse. Donc, c'est une tenture du...
15e ?
Non, c'est une tenture du 14e siècle.
Qu'est-ce que t'es forte ?
et cette tenture, donc tenture, en fait, c'est une série de tapisseries. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tapisseries sur un même thème, et donc... cet ensemble de tapisseries devient une tenture. Voilà.
Tenture sur le thème de l'Apocalypse de Saint-Jean. Une tapisserie qui a déjà inspiré d'autres artistes modernes, notamment Jean Lursa, qui est un peu le gars qui a relancé l'art de la tapisserie moderne au XXe siècle après la guerre.
Il a beaucoup travaillé avec le Mobilier National, dont nous vous avons déjà parlé, donc on va pas vous réexpliquer.
Épisode sur les gobelins, épisode 2, 3, bref, oui. Début.
3.
Oui, mais donc Kiki Smith va voir à la fois la tapisserie de Jean Lursa et la tenture de l'Apocalypse, et elle va elle-même, encore une fois, travailler sur ce thème de la cosmogonie, de la vie, de la mort, des animaux, des humains.
Oui, mais du coup, j'ai trouvé ça un peu frustrant, parce que dans le cartel, ils mettent... elle s'inspire de la cosmogonie indo-européenne, point. Donc, ouais. On a un renard, on a un lapin, on a une biche, et puis bah, ça fait pas avancer. J'aurais bien voulu... Moi, j'aime bien les symboles, tout ça. J'aime bien savoir ce que l'artiste a voulu représenter. Et elle sait très bien ce qu'elle a voulu représenter. Elle est encore vivante, c'est pas comme si on inventait des trucs.
Oui, c'est vrai.
Donc là, je trouvais qu'il y avait... Autant les autres, on comprenait très bien ce qu'elle voulait dire en général. Autant la tapisserie, j'ai trouvé que ça manquait un petit quelque chose.
Surtout que cette série de tapisseries-là... Alors, t'as pas regardé la vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin de l'exposition, il y a une vidéo.
Excuse.
Non, mais je t'informe.
Oui.
Y a une vidéo avec plusieurs petits extraits où elle parle de son travail, de son processus de création, dont un sur ses tapisseries. Et en fait, elle dit qu'elle est partie de collages qui ont ensuite été retouchés numériquement. Et ça a donné les modèles, les cartons pour faire des tapisseries. Et ensuite, elle les a repris en vitrail et aussi en bas-relief. Donc c'est des motifs qui, en plus, l'ont pas mal occupé, l'ont pas mal porté, je pense, pendant pas mal de temps. Donc c'est vrai que ça aurait été chouette d'avoir un peu plus d'infos. Pour en revenir rapidement sur cette vidéo, c'est assez courant d'avoir une vidéo en fin d'expo qui vous parle de l'acte créateur d'un artiste. On vous en avait déjà parlé pour Bacon, c'était exactement le même mode d'emploi. Je trouve ça pas mal. C'est pas très original, mais je trouve ça bien, surtout dans le cadre d'un artiste ou d'une artiste contemporaine. Parce que...
Quand on a son témoignage, en fait.
Oui, voilà. Je veux dire que pour une exposition d'art contemporain où on connaît... Les gens qui viennent ne connaissent peut-être pas très bien l'artiste, d'avoir un principe muséographique assez simple avec une chrono claire au début, une vidéo qui vous récupère à la fin. C'est pas original, mais franchement, ça moche pas de pain et c'est bien que ce soit là. Mais vous pouvez très bien faire l'expo et comprendre sans voir cette vidéo.
Exactement.
Elle est pas du tout indispensable.
Non, je pense que la vidéo, de ce que j'en ai vu, c'est plus sur son processus créatif en fait.
Oui, c'est ça.
Que sur vraiment les réflexions qu'elle met dans ses œuvres.
Assez chouette d'ailleurs, elle dit par rapport à son processus créatif que ça l'énerve un petit peu quand les gens. Lui parle un peu de son génie créatif, lui disait « Ah oui, mais toi, tu as du talent. » Et elle dit alors qu'en fait, 99% de mes œuvres, c'est de venir à l'atelier et de bosser. Ouais. Et c'est l'heure que vous attendez tous. Les œuvres préférées. Vas-y, Vicky.
Alors, au début, moi, j'aimais bien une sculpture qui s'appelait Enchantement, de 2001.
Enchantement.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'œuvre de l'affiche. Donc, je me suis dit que j'étais clairement pas originale. Donc, je me suis dit, non, je vais me trouver une autre œuvre préférée. Et heureusement, je suis descendue au deuxième étage. Et là, il y avait une œuvre. Donc, ça s'appelle Harmonie numéro 3, qui date de 2011. Et donc, en fait, c'est un peu... on va dire, c'est un feu d'artifice, quoi. C'est des morceaux de bronze colorés, collés les uns aux autres, un peu en forme à la fois mi-éventail... mi feu d'artifice et voilà, c'est mon petit côté girly qui a parlé.
J'ai trouvé ça trop moche.
Il y a plein pourtant c'est toi la girly d'habitude.
Quoi? Je suis outrée.
Il y a plein de couleurs. J'ai trouvé ça m'a fait penser à un bassin de carp koi un peu.
Moi, ça m'a fait penser aux espèces de mobiles qui bougent dans le vent qu'on peut trouver parfois sur les marchés de Noël ou en été et qui sont en aluminium arc-en-ciel.
Voilà, on reste dans la jouissance esthétique, on va dire.
Ok. Moi, j'ai beaucoup aimé une œuvre pareille aussi, deuxième partie, premier étage, appelez ça comme vous voulez. Donc de la fin, pas de sa vie. Je veux pas lui souhaiter malheur, donc on va dire de récemment. Une œuvre de 2017, ce sera plus simple, qui s'appelait The Light of the World. Et en fait, c'était une série de cyanotypes. Et les cyanotypes, j'aime beaucoup ça. C'est un principe d'impression, enfin comme un principe de tirage photo ou gravure. Ça dépend ce que vous voulez imprimer, mais c'est sur du papier photosensible comme une photo. Et en bleu. ça vous donne un tirage d'un beau bleu, sorte de bleu vert assez profond, enfin c'est assez joli. Et j'aime beaucoup les cyanotypes aussi parce que ça me rappelle, alors je sais pas du tout si c'était fait exprès de sa part ou pas, mais ça me rappelle le travail d'une des premières photographes de l'histoire, enfin juste après l'invention de la photographie, qui s'appelle Anna Atkins, qui était une biologiste qui a photographié des algues et des herbes en cyanotype et qui a fait des albums complets de cyanotype, albums qui étaient à pur but scientifique, mais qui, au fil des années, sont devenus beaucoup plus à but esthétique et artistique, parce que c'est une des premières, un des premiers essais avec de la photo et avec surtout ce principe du cyanotype. Voilà, et c'était très beau, j'ai trouvé, d'avoir tout cet ensemble de photos bleues à la fin.
Info pratique.
L'exposition dure jusqu'au 9 février, on est désolé, on vous prévient un peu à la dernière minute, mais c'est comme ça. Allez la voir, surtout qu'il y a des choses autour de l'exposition. Alors, quelque chose qu'on n'a pas fait, mais qui est compris avec le prix de votre billet, dans le musée Les Collections Permanentes de la Monnaie de Paris, Kiki Smith a choisi quelques œuvres, des médailles, des monnaies, des petits trucs. Et donc, il y a un parcours Kiki Smith dans leur collection permanente. Et en plus de ça, bientôt, le mercredi 29 janvier, il va y avoir une projection d'un documentaire sur Kiki Smith. Et même en fait, au courant du mois de janvier, encore dans les jours à venir, le 15 janvier, vous avez une conférence avec la commissaire de l'exposition. Le 5 février, avec le directeur du musée de la chasse et de la nature. Alors autant vous dire que je suis jouasse, parce que c'est mon musée préféré, et que c'est aussi un musée qui a un peu une présentation type cabinet de curiosité avec de l'art contemporain, donc ça colle tout à fait. Et il y a même des ateliers pour les familles avec les enfants, pour, je cite, « créer comme Kiki Smith », le 26 janvier et le 2 février l'après-midi, c'est des dimanches.
La meuf, elle parle des ateliers, elle nous donne même pas les horaires et l'adresse.
Oh alors, 14h30 les dimanches. Ah oui, les horaires de l'expo.
Bah les horaires de l'expo.
Bah vas-y. Mais j'aime pas faire les trucs chiants.
Du coup, c'est moi qui me le tape.
Oui.
Alors, les infos pratiques, on recommence du début. Alors, Monnaie de Paris, 11 Quai de Conti, dans le 6e arrondissement. Accessible. Oh, prenez la une, hein, ce sera le plus simple.
Ouais, et vos petits pieds, ensuite.
Oh, c'est pas très loin.
Vous descendez donc, à Palais Royal. Ouais.
Les horaires, du mardi au dimanche, de 11h à 19h, nocturne le mercredi, jusqu'à 21h. Le tarif, 14 euros. Il y a des tarifs réduits pour les moins de 25 ans, les étudiants en histoire de l'art, voilà, les moins de 18
c'est
ans.
Pas musée de c'est pas non. Musée national, je crois.
Non, c'est pas musée national.
Ça douille un peu, hein. On va pas vous mentir.
Moi, je trouve que c'est un peu cher, mais bon, voilà.
Chouette expo, mais bon, comme c'est les prix en ce moment, et à chaque fois, ça fait un peu mal.
Ouais, c'est ça. Après,
Non, mais tu le dis si on te fait chier. En même temps, je t'avais prévu. Mais ça, pour pratique. C'est un peu relou.
C'est un peu relou.
Après, bon, c'est une expo originale, c'est un chouette lieu. Ça fait une sortie sympathique.
On y va.
On y va avec vos copines féministes, ou alors vous y allez avec votre rancard pour tout de suite mettre les choses au clair. Et lui en mettre plein la vue avec tout ce que vous aurez appris dans Canard.
Bon, bah, le post...
Le podcast, il est fini. Et nous aussi. Voilà. Donc on vous dit à la semaine prochaine, si tout va bien. Et suivez-nous sur Instagram et sur Twitter.
Sur Podbean, Spotify, SoundCloud.
Et autres bonnes applis de podcast. Oui, iTunes aussi. Tout.
Tout.
Tout. Et fini entre nous. Donc à la semaine prochaine. À bientôt Vicky.
À bientôt Gabrielle.